Tout de suite, c'est le nouveau rendez-vous, début de semaine avec le rituel du lundi pour tout savoir sur nos invités de la semaine, le programme des débats. De quoi va-t-on parler? Allez, on passe aux aveux avec la bande-annonce de la semaine.
La cour!
Maître Dupond-Moretti, c'est moi qui vous ai contacté à propos de l'affaire Viguier.
D'abord, c'est un procès pour meurtre sans cadavre.
L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir.
En vrai, ils savent même pas si elle est morte. Hein. Si ça se trouve, elle est partie.
Ce n'est vraiment pas le moment de m'interrompre.
Tu t'ennuies avec moi. Quand on sait, on s'ennuie pas.
L'amour.
Parfaitement, l'amour, petit con.
Le monde de l'opéra est un monde plein de vanité.
Ça me fera un joli portrait de famille pour l'article, ça. Regardez-vous. Oh, Marianne, tu es un peu triste, là.
Putain, c'est marqué putain nana dans le dos. On a pas fait tout notre cinéma à chialer, à se dire qu'on s'aimait pour que ce soit pas sur le terrain.
Vous pensiez avoir tout vu? Eh bien, non.
Monsieur Larson, c'est vrai ce qu'on dit sur vous? Vous ne gagnez personne.
T'as vraiment un problème avec les femmes? Faut que tu retournes voir le psy.
La 10e saison, on veut du jamais vu, on veut être bluffé.
Qui c'est qui veut gagner Top Chef?
Et oui, il y aura tout ça. Top Chef, 10 ans que ça mijote à la télévision, ce sera demain à la radio avec en première partie Antoine Rimbaud pour son film Une intime conviction sur l'affaire Viguier. Mercredi, Pierre Palmade, jeudi du baroque avec René Jacobs et de la pop avec Léonie Pernet en live qu'on entend derrière nous. Mais tout de suite, il n'a peur de personne. Philippe Lachaud en Nicky Larson. Générique.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes lundi 4 février et c'est le Énervé, le magazine de la bonne soirée, de la double bonne soirée qui commence en avant-première dès 18h sur franceinter.fr et en podcast. Et puis ça passe à l'antenne, 22h minuit, comme tout le monde. Ce soir, Philippe Lachaud est brun, obsédé sexuel, super baraqué et déjanté en Nicky Larson. Quatrième film pour celui qui s'est imposé en babysitter. Philippe Lachaud signe un film d'aventure adapté du manga et de la série animée culte des années 90. Et c'est fou. Philippe Lachaud, bonsoir.
Bonsoir.
On recevra aussi Didier Ruiz qui met en scène Face Publique, cet homme et femme tous trans dans Trans, une pièce documentaire. Ça commence aujourd'hui au Théâtre de la Bastille à Paris avant de repartir en tournée dans toute la France. Didier Ruiz est accompagné de Dany, un de ses acteurs non professionnels. Dany, née fille, aujourd'hui chauffeur de bus. Et comme chaque lundi, on retrouve Soro Solo pour l'Afrique en solo. La chronique ce soir, pour quelle destination Soro Solo?
Je vous amène au Cap-Vert, dans l'archipel de Cap-Vert, pour découvrir Lusa Africa, le label de disques qui a révélé César Evora et fait découvrir cet archipel au monde entier. L'entreprise fête ses 30 ans de parcours cette année.
Et dans le Énervé, la suite, rugby féminin, elles ont tout cassé, elles ont tout gagné ce week-end au tournoi des Six Nations, Benoît Lagane.
Oui, les Françaises ont écrasé les Galloises et pas les Gauloises, ça c'était autre chose. Ce week-end, pour la première journée du tournoi des Six Nations, on parle donc rugby, mais aussi sport collectif féminin de façon plus large, avec Laura Di Musio, joueuse de rugby et putain de nana, Nathalie Yanetta, ex-conseillère au sport auprès de François Hollande et grande journaliste sport, Fanny Lechevestrier de chez nous à Radio France et Benjamin Montel, reporter à Capa Sport. Toutes bon monde pour parler rugby féminin tout à l'heure.
Les femmes s'en mêlent, exactement. Le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Monsieur Larson, c'est vrai ce qu'on dit sur vous? Vous ne gagnez personne. Vous êtes le meilleur des gardes du corps. Vous pouvez tirer 6 balles au même endroit.
Waouh, 6 balles au même endroit. Wow. Mais ça, c'est super fort, hein, Philippe Lachaud.
Oui, sans trucage. Hein.
Sans trucage, non, c'est non. La signature de ce Nicky Larson au cinéma. Vous êtes devant et derrière la caméra. Nicky Larson, héros de manga, de dessin animé. On se souvient tous de la chanson du générique. Vous pourriez la chanter?
Une ombre file dans la nuit. C'est un assassin qui s'enfuit. Et comme un démon, il sourit. Son crime restera impuni. Je peux vous la faire en entier?
Ah ben, je peux imaginer. De toute façon, on l'entend en plus plusieurs fois. Et vous avez même retrouvé celui qui chantait le générique, c'est ça?
Oui, on est très fiers. C'est un petit clin d'œil qui nous faisait plaisir. Il s'appelle Jean-Paul Césariste. C'était le chanteur du générique. Et il fait une apparition dans le film avec un petit remix dans le film de cette chanson.
Nicky Larson, c'est l'époque, bien sûr, Club Dorothée, qui fait elle aussi une apparition avec un gimmick. Là encore, comment vous avez retrouvé sa trace?
Alors, c'est une bonne question. Je crois que c'est mon producteur qui connaissait Jean-Luc Azoulay.
Oui, bien sûr.
Et donc voilà, grâce à Jean-Luc Azoulay, il lui a fait cette demande. Et
elle a été facile à convaincre?
Bah oui, franchement oui. Elle a dit oui tout de suite, pour notre plus grand bonheur, parce que on a une fierté pour tous les gens de ma génération.
Bien sûr, c'est bourré de clins d'œil à cette époque-là.
Ouais, c'est extraordinaire de l'avoir dans le film pour nous.
Dès le départ, vous saviez que vous alliez faire des clins d'œil, notamment bien sûr à la série animée, mais aussi donc là où on le voyait, c'est-à-dire au Club Dorothée, à toute cette télévision.
Bah en fait, c'est-à-dire que c'est vrai que ce film, alors pour ceux qui connaissent pas Nicky Larson, verront une sorte de James Bond en comédie.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de connaître le manga ou de faire partie de la génération Club Dorothée. Mais ceux qui font partie de cette génération, c'est vrai, relèveront de nombreux clins d'œil, à mon avis, qui leur fera plaisir.
Jusqu'à Hélène. Elle s'appelle Hélène.
Exactement.
Nicky Larson et le parfum de Cupidon, c'est une mission à haut risque. Nicky Larson, garde du corps et détective, est appelé par un certain Dominique Leterrier pour récupérer une mallette qui contient le parfum de l'amour, un filtre qui fait que celui qui s'en asperge devient irrésistible et crée l'amour sur celui ou celle qui le sent. Ça marche même avec les animaux, c'est génial. Au programme, course-poursuite sur un lit, drame familial, défilé de lingerie, Pamela Anderson qui s'exhibe sur les réseaux sociaux et vous, en Nicky Larson, un beau brun qui pourrait bien changer de sexualité au passage, bande-annonce.
Mon père était scientifique. Il a créé un sérum d'amour, rendant irrésistible celui qui l'utilise. Ce parfum inodore provoque chez celui qui le respire une explosion de l'attirance émotionnelle.
C'est n'importe quoi ce parfum.
Non mais
j'annonce, si ça marche, je change de sexe.
Pour un plus grand ?
Très marrant.
Mon Dieu, la mallette !
Il me reste combien de temps pour retrouver la mallette ?
47 heures.
Qu'est-ce que vous foutez là, vous ?
On est venu vous aider.
Il est complètement con, lui.
C'est un scénario original en fait, c'est pas une aventure qui existait, le parfum de Cupidon.
Tout à fait, c'est une histoire à nous.
Mais il fallait vraiment créer une histoire, on n'avait pas eu le droit d'adapter une des aventures
de
Nicky Larson.
Bien sûr, on aurait pu, mais en fait c'était pas très évident parce que les dessins animés de l'époque faisaient à peu près 20 minutes pour faire tenir ça sur une heure et demie, c'était pas évident.
Ouais.
Donc voilà, on est parti, on a repris tout l'ADN de Nicky Larson qui est super, parce qu'il y a dedans, il y a de la romance, il y a toute la notion, il y a un vrai sujet sur l'amour, il y a de l'action, il y a du rire avant tout. Et voilà, mais à travers cette histoire, la quête du parfum de Cupidon.
Adapter, c'est aussi regarder. J'imagine que vous avez relu ou lu les mangas, que vous êtes tapé toute la série de dessins animés.
C'est ça, on s'est refait un petit, une petite mise
en retour vers l'animaux.
C'est ça exactement. Et du coup, plein de nostalgie. On s'est refait tous les épisodes, on a relu tous les tomes.
Des films aussi.
Les films, parce qu'en fait, il y avait eu un film avec Jackie Chan qui avait été fait en Chine, je crois que c'était dans les années 90, mais c'est une adaptation très libre. Donc, non, on est préféré rester sur l'œuvre originale.
Et c'était pas mal quand même ce film avec Jackie Chan ou...
C'était marrant, mais après.
Il avait le costume quand même, comme
mais
vous.
Mais non, même pas. Donc,
c'était rien alors.
C'est pour ça que je dis que c'était très libre. C'était, voilà. Après, j'aime bien Jackie Chan, mais. C'était bon, je reconnaissais pas trop non plus.
Nicky Larson au cinéma, c'est quand même une première, hein, notamment en France. Est-ce que ça a été facile d'avoir les droits ?
Ça a été très compliqué. C'est-à-dire que c'était très dur d'avoir les droits au Japon. En fait, le détenteur des droits s'appelle Monsieur Tsukasa Ojo, c'est le créateur de Nicky Larson. Et en fait, il avait un droit de regard sur le scénario. Donc, on a écrit le scénario pendant un an et demi sans savoir si le film se ferait. Donc, il y avait un grand moment de pression pour nous. C'est pourquoi on a essayé de vraiment s'appliquer. Et après un an et demi, j'ai pris l'avion direction Tokyo. Ouais. Et j'étais jamais allé là-bas de ma vie. Il avait 48 heures pour lire le scénario qu'on avait fait traduire en japonais. Et 48 heures après, bon, il nous a dit qu'il avait adoré le scénario. C'est grâce à ça que je vous parle aujourd'hui.
Ouais.
Mais c'était deux jours terribles parce que je dormais pas. J'étais en panique totale. Je me suis dit, ça se trouve, on a fait tout ça pour rien. Ce serait horrible.
Mais j'imagine quand même que vous aviez des pistes. Est-ce qu'il y avait un cahier des charges, des choses à ne pas faire, des choses à ne pas mettre? Est-ce qu'il y avait...
Non, il y avait rien. Il y avait rien. Il était au courant qu'on devait faire une histoire originale. Mais après, ouais. Voilà, il voulait que ça respecte son œuvre quand même, c'est-à-dire que les personnages soient fidèles, leurs relations entre eux, et voilà, on s'est vraiment appliqué.
Il a corrigé des petites choses, il vous a donné.
Oui, il y a eu deux, trois petites modifs,
exemple, sur quoi
très intéressantes. Bon, si on n'a pas vu le film, ça va pas trop, ouais, ça va pas trop parler aux gens.
C'est sur les personnages, c'est sur le scénario.
Oui, c'est ça, sur les personnages. Donc c'était très juste, et ça, le film est mieux grâce à ça.
Vous l'avez rencontré où ?
Je l'ai rencontré à Tokyo. En fait, donc je pars à Tokyo, je ne parle pas japonais, évidemment. Je sais dire arigato, voilà, et menu B18, parce que je vais souvent au restaurant japonais, c'est tout ça. Et je pars en plus avec des Américains, parce que les distributeurs du film, c'est Sony Columbia. Ouais. Et donc je pars avec des boss de Sony Columbia. Et je ne parle pas anglais non plus. Donc c'était formidable. J'étais dans une salle où c'est moi qui ai la parole, où je dois convaincre le créateur, donc Tsukasa Ojo. Donc il y avait des traducteurs de partout. Un traducteur français-japonais, un traducteur français-anglais et un traducteur anglais-japonais. Et voilà, donc je faisais des phrases courtes pour pouvoir que ce soit bien retranscrit à chaque fois. Mais j'avais bien bossé mon truc. J'avais une heure pour le convaincre avant de lui remettre le scénario, donc j'y suis allé à fond.
Il a quel âge ?
Il n'est pas très âgé. Je crois qu'il a la cinquantaine.
Ah bah non, en effet, il est jeune.
Ouais, il a créé Nicky Larson. Il devait avoir 25 ans, quelque chose comme ça. Donc, non. Et c'est un monsieur en plus que j'aime beaucoup. Très, très humble, très. Voilà. Très, très bon feeling. Et grand honneur pour moi, parce que quand même, j'ai découvert son œuvre assis dans mon canapé étant enfant. Et aujourd'hui, j'interprète un des héros de mon enfance. Donc, le rencontrer, pour moi, c'est. Et il a vu le film. Et il a beaucoup ri devant le film et j'étais très fier parce que voilà, moi il m'a fait rire quand j'étais enfant et ben voilà, aujourd'hui c'est à mon tour de le faire rire.
Vous en Nicky Larson, donc ça passe par une autre couleur de cheveux, vous êtes brun, super musclé d'ailleurs.
Et merci de le remarquer.
Ah bah, vous avez, attendez, vu tous les efforts que vous avez dû faire,
merci, super musclé. J'en ai bavé, donc ça me fait très plaisir.
Combien
que vous
de temps de préparation?
C'était 8 mois pour 8 kilos à peu près de muscles parce que le personnage est costaud. Donc voilà.
Ouais, mais enfin, il y a des trucs que vous auriez pu avoir.
Non, bah, mais là, c'est... Non, vraiment. Mais en plus, ça me tenait à cœur. Vraiment, c'était un vrai défi pour moi. Donc
vous avez poussé de la fonte.
Ouais,
vous avez,
c'est ça.
Le plus
galère, c'était après pendant le tournage, parce que le tournage, j'ai un rythme de fou. Du coup, le midi, on m'installait une petite salle de musculation
là où on tournait,
pour pas perdre, parce que la musculation, c'est très ingrat.
Et depuis, vous avez perdu?
Et depuis, ouais, j'ai perdu évidemment. Mais j'ai des restes parce que je continue de m'entretenir, mais c'est surtout la nourriture le plus compliqué. 6 œufs le matin. On mange 5 fois par jour, beaucoup de riz, beaucoup de poulet, de voilà. Mais je suis content que ça se voit à l'image, j'ai pas fait ça pour rien.
Ça se voit vachement à l'image, quand même, dingue. Une comédie qui met en scène des acteurs comiques, et ça c'est intéressant, culte de toutes les générations. Audrey Lamy, on va dire pour aujourd'hui. Chantal Latsou, formidable et plutôt pas mal, en Belle-Mère d'Info.
Beau nichon, on peut le dire.
On peut le dire.
On les voit dans
ce sont les siens. Joker.
Voilà.
Hein. Gérard Jugnot.
Gérard Jugnot, oui.
Didier Bourdon, donc vraiment toutes les générations de comiques, à la fois à la télévision et au cinéma. La comédie, on le sait, c'est votre signature au cinéma depuis le début. Quelque chose qu'on comprend quand on écoute le son que vous nous avez transmis.
Vous m'avez traité d'abruti ?
Oui.
Je pratique les arts martiaux, judo, aïkido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne connais pas, je le regarde et je m'en vais.
Eh ben, tire-toi alors.
Vous avez de la chance. Allez, pour les chariots effilés.
Gros connard.
Vous avez de la chance.
Dédé.
Je suis arrivé à contrôle total. En route. Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds.
Ouais. C'est du génie.
C'est quoi ?
C'est du génie. Bah, moi, ceux qui m'ont donné envie de faire ce métier, les tout premiers, c'était Francis Weber et Pierre Richard, dans La Chèvre notamment, que je connais par cœur. Voilà, j'ai le souvenir de mes parents qui regardaient ça à la télévision quand j'étais petit et je voyais le bonheur. Enfin, je sentais mes parents joyeux et je me suis dit, mais c'est génial ce que communique ce réalisateur et cet acteur à mes parents. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs, dans mon premier film Baby Sting, au générique, je remercie Francis Weber et Pierre Richard pour m'avoir donné envie de faire ce métier. Pour moi, voilà, Francis Weber, c'est le maître. On prend Le Dîner de Cons, par exemple, pour moi, qui est son meilleur film, ça n'engage que moi, mais qui est une leçon de comédie pour moi. Voilà. Je trouve le film parfait.
Ça veut dire que dès le départ, c'était la comédie que vous...
Ah oui, toujours.
Que vous vouliez travailler.
Moi, c'était vraiment faire rire les gens, les amuser. Voilà, c'est pourquoi quand on fait des avant-premières, quand les gens nous disent merci parce que pendant une heure et demie, vous nous avez permis de penser à autre chose que nos problèmes, nous changer les idées, bah, c'est le plus beau des compliments qu'on puisse nous faire.
Comment vous êtes arrivé au cinéma ? Parce qu'au départ, c'était le Morning Live.
C'était une galère pas possible. C'est-à-dire que moi, tout petit, je dis à mes parents, je veux faire du cinéma, sauf que mon père est assureur, ma mère couturière.
Donc, a priori, rien à voir.
Ils connaissent personne dans le cinéma.
Difficile de rentrer.
Donc, ils me disent, bon, écoute, finis ton assiette et on en reparlera plus tard. Sauf qu'ils voient que je persiste. Et donc, très tôt, ils m'achètent une caméra. J'étais ado. Sauf que, effectivement, le cinéma me paraissait inaccessible. Mais je voyais le parcours de beaucoup de gens de la télévision arriver au cinéma.
C'est comme ça.
Comme, que ce soit Les Nuls, Les Inconnus, Jamel Debbouze, José Garcia. Et je me suis dit, peut-être que la télévision pour être une passerelle.
Ah oui, donc dès le départ, il y avait une stratégie d'en passer par la télévision pour accéder au cinéma.
C'était un plan de carrière.
Ouais, ça a bien marché, ouais.
Et donc, moi, je filmais énormément. Je faisais beaucoup de sketchs. Ben voilà, je filmais mon petit frère, mes copains. Je leur disais, venez, on va faire un film dans l'espace. Donc, je redécorais l'appartement de mes parents en vaisseau spatial avec du papier aluminium sur tous les murs. Les combinaisons de ski, ça nous servait de combinaisons spatiales. Et c'était parti. Et du coup, j'avais des heures de sketchs, enfin, de petits films que j'ai monté et qui m'a fait comme une bande démo et que j'envoyais à toutes les chaînes de télévision, toutes les productions. Et effectivement, un jour, il est 7h du matin, je suis chez mes parents, ma mère me réveille en me disant « il y a M6 au téléphone ». Bon, je prends le téléphone et Michael Youn est à l'autre bout du film, au Morning Live, en direct. Il me dit « Philippe, on a reçu ta cassette, on va passer ton sketch ». Et c'est comme ça que tout a commencé. Parce que le sketch est passé à la télé et dans les locaux, il y avait le directeur Frédéric De Vincel de Fun TV, qui était la petite chaîne d'M6. Ouais. Et il a récupéré la cassette et je me suis fait embaucher comme ça sur Fun TV. Et là, j'avais un pied dans la télé. C'est comme ça que tout a commencé.
Tout en gardant de vue que le cinéma arriverait un jour.
Ah, c'était le but. Ouais. Moi, c'était le but. C'était de. C'est pourquoi après Fun TV, moi, je visais Canal+, qui était la chaîne du cinéma, on va dire.
Et ça a marché.
Ouais, j'ai réussi à, grâce à Carl Zéro, je suis arrivé sur Canal+. Après Michel Denisot. Voilà, et après, le cinéma s'est pas fait tout de suite du tout, parce que c'était très compliqué. En fait, les gens nous disaient à chaque fois, parce que nous, à chaque fois, ce qui était génial au Grand Journal, c'est qu'il y avait beaucoup d'invités cinéma. Et nous, à chaque fois, on les coinçait dans les loges en disant, voilà, on aimerait faire du cinéma, comment faire? Et c'était Cad et Olivier les premiers à nous avoir présenté des producteurs. Et voilà, il y a eu plein de projets qui ont été avortés, qui étaient compliqués, parce qu'on nous disait à chaque fois, les films sont trop chers, vous n'avez pas fait de cinéma, donc on ne peut pas monter les films financièrement sur vous. Donc ça faisait un peu le syndrome de la boîte de nuit. Tu n'es pas habitué, tu ne rentres pas.
Ouais.
Mais on disait, mais si on n'a jamais fait de cinéma, on ne pourra jamais faire de film. Et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de Baby Sting, c'est à l'envers. C'était une démarche économique à la base. On s'est dit, il faut trouver une idée pas chère pour avoir la chance d'interpréter les rôles principaux. Et c'est ce qu'on a fait.
Et aujourd'hui, ça donne un film cher quand même, non, j'imagine?
Et grâce à ça, en fait, parce que Nicky Larson, j'aurais jamais pu le faire en premier film, effectivement, parce que c'est une comédie, mais il y a un côté spectaculaire.
Spectaculaire, super bien filmé.
C'est gentil.
Ouais, à l'image, ça se voit. Il y a une dimension, vous parliez tout à l'heure que c'était une James Bond en comédie.
Ouais, c'était la référence.
Il y a une dimension de James Bond, notamment quand, par exemple, le personnage arrive à Monaco, qui est filmé, en fait, vraiment presque... pas comme un plan à la James Bond, c'était... avec même la musique, il y a quelque chose dans la musique qui fait référence.
Effectivement, on a beau être un film français, on avait vraiment de l'ambition pour ce film que même si les gens se marrent, on voulait que ce soit joli, que ça envoie, qu'il y ait un côté glamour à la James Bond, parce que le personnage est un petit peu un James Bond en comédie.
C'est pour cela qu'il y a Pamela Anderson qui fait le job.
Ouais. Donc on s'est débrouillé pour voilà, même si on n'a pas les moyens des Américains, pour que c'est quand même vraiment de la tronche et que les gens soient conquis.
C'est un film à combien de budget?
Alors, c'est moins cher que Star Wars, tout ce que je sais.
Un peu plus qu'un Robert.
Et plus que nos films d'avant, tout simplement. Ouais.
Vous restez avec nous tout de suite, avec Philippe Lachaud. Il va être question du questionnaire 100% France Inter.
Et maintenant, le questionnaire.
Je tiens au passage à préciser que vous n'avez pas souhaité avoir la liste des questions par avance.
Rendez-vous.
Ça, c'est normal. Mais tellement rare aujourd'hui.
Et oui, tout de suite, rien que pour vous, Philippe Lachaud, c'est le questionnaire 100% France Inter, avec des questions des stars de la chaîne, des questions qui ont déjà servi, qui ont déjà été posées, donc il y a déjà eu des réponses. Nous, on est écolo, on recycle. Trois questionnaires, vous choisissez le vôtre. Le premier s'appellerait Babysitter, le deuxième s'appellerait Alibi, le troisième Arnaqueur. Vous prenez lequel?
Ouh là là, les trois me plaisent.
Il n'en faut qu'un.
Allez, je vais dire Baby Sting.
Ouais, c'est ça, ça porte bonheur. Première question, Ali Rebéi.
Quel est le film qui vous fait irrémédiablement pleurer?
Eh oui.
Oula.
Est-ce qu'il y a des films qui vous font irrémédiablement pleurer?
Ouais, moi je suis très sensible. Alors, Braveheart, je dirais. Braveheart et Titanic. C'est pas très original. Mais moi, Braveheart, quand à la fin, Mel Gibson crie « Liberté », à chaque fois, ça marche sur moi. J'ai les larmes aux yeux. Je trouve ça tellement fort, tellement puissant. Je trouve c'est tellement un chef-d'œuvre, ce film. Même de par ce que ça raconte. Ouais, ça marche à chaque fois.
Et Titanic?
Et Titanic, bah, c'est quand Kate descend avec le canot de sauvetage et que lui, il reste sur le bateau comme ça et lui a fait... Et même la fin, et de toute façon, les personnages ont été inventés de Jack Dawson et Rose, mais ça reste une histoire vraie.
Vous vous souvenez même du nom des personnages dont vous avez vu le film plusieurs fois alors?
C'est un de mes films
préférés. Ouais, je peux
imaginer. C'est un chef-d'œuvre.
Une question de Guillaume Meurice.
Alors, existe-t-il un humour de droite?
Genre de question qui tue.
Alors,
est-ce que ça existe?
Ah oh là là, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Alors moi, je j'ai l'impression de pas faire un humour que peut-être j'ai des vannes de droite. J'en sais rien. Moi, j'ai fait des vannes qui j'écris ce qui nous fait rire sans du tout réfléchir à ça. Mais peut-être.
Quand ils posent la question, on a l'impression que donc il ne pourrait y avoir qu'un humour de gauche, puisqu'ils disent est-ce qu'il y a un humour de droite.
Ouais, non, je sais pas. En fait, nous on n'a pas trop un humour politique d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que donc alors peut-être, sûrement. Je sais pas du tout quoi répondre à ça.
Et bien alors, troisième question, Edouard Baird.
Est-ce que les hommes aussi, parfois, vous recevez des mains aux fesses?
Les dernières mains aux fesses que j'ai reçues, moi, c'était par Liane Folly. Parce qu'on faisait un sketch aux Enfoirés, ouais. Et c'était écrit dans le sketch, je me déshabillais, on dansait un slow langoureux, et elle me mettait la main aux fesses. Voilà, je contractais pour avoir l'impression d'avoir un fessier. je vous le dis, hein, je lui ai pas dit, pour être un peu... que ce soit un peu plus chouette pour elle, mais voilà.
C'était agréable ?
C'était très cool, ouais, de danser un petit slow avec Liane Folly. Je l'aime beaucoup, en plus, elle est adorable. On adore Liane, vraiment.
Merci Philippe Lachaud. Nicky Larson, ça sort en salle mercredi prochain. On va parler dans quelques instants théâtre et transformation avec Didier Ruiz et son acteur non professionnel Danny. Tout de suite, parce qu'il n'y a pas que Nicky Larson dans la vie, place à Nick Waterhouse. Cheveux gominés, guitare chromée, lunettes en écaille. C'est l'un des gardiens du temple du R&B aux USA. Song for Winners. Song for Winners, le nouveau Nick Waterhouse sur France Inter en concert à Roubaix le 22 mars prochain. La programmation gagnante, toujours, de Jean-Baptiste Libert.
NRV, le nouveau rendez-vous.
Spectacle trans et le sous-titre, Didier Ruiz.
Messe Enlia.
Ça veut dire quoi ?
Au-delà, en catalan.
Parce que c'est un spectacle à la fois français et catalan.
C'est un spectacle à la fois français, catalan et espagnol.
On va y revenir. Donc, spectacle trans avec vous deux, Didier Ruiz et Dany. Dany, pas de nom de famille ?
Si. Ranieri.
Mais dans le spectacle, c'est Dany.
C'est Dany.
Vous avez supprimé les noms de famille, Didier Ruiz ?
Ah, mais pas du tout. Non, pas du tout. Si vous prenez le programme, il y a le prénom et le nom de famille.
Mais quand il se présente, c'est Dany.
C'est Dany.
Trans, c'est au Théâtre de la Bastille à Paris jusqu'au 10 février, avant de repartir en tournée. Du théâtre documentaire, comme on dit maintenant, mais un théâtre de l'humanité, comme vous le qualifiez, Didier Ruiz. Sur le plateau nu, enveloppé d'un voile blanc, 7 acteurs et actrices, des non-professionnels, 3 hommes, 4 femmes, entre 22 et 60 ans, se présentent face publique et racontent leur histoire liée à leur transition sexuelle. Première question d'abord, Dany et Didier Ruiz, comment vous êtes rentrés en contact l'un avec l'autre ?
C'est le hasard, c'est souvent le hasard qui fait les choses. Et C'était un moment où on imaginait que dans cette distribution étrangère, donc parlant catalan et espagnol, il était bien d'avoir un élément qui parle en français. Et j'ai pas eu à chercher, c'est parce qu'on en a parlé dans un théâtre entre deux portes que quelqu'un a entendu et nous a envoyé le contact de Dany. Et donc un beau matin, je suis parti à la rencontre de Dany. Et la rencontre s'est faite puisque nous sommes encore là aujourd'hui.
Dany, vous vous souvenez de la rencontre avec Didier Ruiz ? Qu'est-ce qu'il était venu chercher chez vous ? Votre histoire ?
Je pense me connaître déjà, voir si qu'est-ce qui pouvait se passer. Moi, j'étais ouvert à tout, puis voilà, je faisais confiance à la personne qui m'avait parlé de Didier. Et j'étais très ému. On s'est retrouvés à la terrasse d'un café à Lille, concrètement. Et puis voilà quoi. Et, moi, j'étais tout de suite captivé. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui m'est très à l'aise, qui est très humain. Et,
Comment vous lui avez présenté le projet, Didier Ruiz ?
Oh, le plus simplement possible, en disant que c'était un pari compliqué, difficile, long, qui demandait un engagement lourd, puisque je demandais 2 ans d'engagement à ce moment-là.
Ah, 2 ans d'engagement, ah, oui, d'accord.
Il y avait 2 ans d'engagement, d'ailleurs il va falloir penser à renouveler cet engagement moral. Et voilà, donc je présente les choses comme elles sont. C'est pas simple d'aller sur un plateau, c'est pas simple d'aller sur un plateau pour parler de soi, et surtout pour des gens dont ce n'est pas le métier. Et voilà, donc je dis les choses telles qu'elles sont, et puis après je laisse faire, et ça se fait.
L'idée de travailler avec des personnes trans vous est venue, je l'ai pu le lire, après une rencontre à Barcelone. C'est une mère qui vous parle de son fils qui s'habille en fille. Et puis c'est aussi la vision d'un documentaire italien. Ça racontait quoi, ce documentaire ?
Ce documentaire s'appelle Fuera di Strada, hors route. C'est un mécanicien dans la banlieue de Rome qui est fou de rallye. On le voit au début du film, il a une grosse moustache, il est musclé, il s'appelle Gigi, il dit plein d'injures, des gros mots, il répare sa voiture, il crie, il cherche les outils, machin. Et puis on le revoit ensuite, et c'est devenu une femme, il cherche ses outils, il fait toujours des rallyes.
Il fait toujours des gros mots.
Et ce qui m'avait frappé, c'était dans sa vie familiale, comment sa mère le considérait de la même façon, comme si rien ne s'était passé. Et il y avait une réflexion de sa femme qui m'avait beaucoup marqué. Sa femme disait, moi je l'ai aimé comme homme, je vois pas pourquoi je l'aimerais pas en tant que femme. Mon amour est le même. Et ça m'avait beaucoup interrogé sur comment l'amour va au-delà, ma Chania, de ce qui se passe. Si on vous coupe les deux jambes, est-ce que on vous aimera autant ou pas ? Vous êtes défiguré dans un accident de voiture, est-ce qu'on vous aime autant ou pas? Voilà, jusqu'où ça va l'amour? Et dans ce cas-là, il se passait rien du tout. Tout le monde était il n'y avait aucun événement, et même les clients étaient interrogés. Ils disaient moi, je ne changerai pour rien de garagiste. C'est le meilleur de la région, que ce soit homme ou femme, ça m'est complètement égal.
Vous aviez vu ce documentaire aussi, j'imagine. Il vous a demandé de le voir, Dany?
Non.
Pas véritable. Et vous avez eu la curiosité de le regarder ou pas?
Non, je n'étais pas au courant.
Même pas au courant qu'il y avait ça.
Non.
Parce que vous avez fait le chemin inverse. Vous étiez fille, vous êtes devenue garçon. À quel moment, d'ailleurs, ça s'est fait, cette transition?
Alors, la transition physique, elle se fait tard, à 25 ans, parce que j'ai pas les moyens, et heureusement, ma mère m'a aidé. Mais dans ma tête, c'est haut comme 3 pommes. D'où la difficulté de grandir en sachant qu'on n'est pas ce que les gens voient de vous. Et donc d'être tout le temps dans la lutte constante de dire « non, je suis pas comme ça », et d'être constamment repoussé ou mis sur le côté, parce que vous avez une double, disons, le fait d'être une fille et le fait de pas accorder comme les filles qu'il faudrait être.
Oui,
donc
sûr.
C'était le double truc. C'était vraiment éprouvant.
Donc il a fallu attendre 25 ans pour pouvoir...
Dans mon cas, oui.
Dans votre
Après,
cas,
ça
oui.
peut être moins, ça peut être plus. Et 25 ans, parce que quand même les opérations, on parle quand même des années 90, ouais. Il y en a pas tous les jours et partout. Il faut payer, c'est pas public.
L'opération, vous l'avez faite en France ?
Non, en Espagne.
Ah oui. Ouais. Pourquoi ?
Parce que j'habitais là-bas tout simplement, et parce qu'ici, je pense que ça se serait jamais fait. J'aurais même pas eu vent d'eux. Et là-bas, j'ai eu la chance qu'on a pu me mettre ça dans un magazine, dans les mains, et j'ai pu aller à la clinique. Incroyable, mais c'est vrai.
Lydia Ruiz, vous confirmez ?
Oui, bien sûr, la situation est extrêmement différente. Ce qui se vit de l'autre côté des Pyrénées n'a rien à voir avec ce qui se vit ici, dans ce domaine-là et dans d'autres. Moi, je l'ai fortement vécu en commençant la répétition du spectacle à Barcelone. Et moi, je cite toujours cet exemple parce que ça m'a beaucoup frappé. On l'a créé au Théâtre Llor, qui était dirigé à ce moment-là par Luis Pasquale, à qui je rends hommage. Et dans le Théâtre Llor, et donc qui est un théâtre public, qui est l'équivalent du Théâtre de la Ville à Paris, la personne qui était à l'accueil, à la billetterie, d'une personne trans. Et je me dis, mais quand est-ce qu'on verra au Théâtre de la Ville ou à la Colline ou à la Comédie Française une personne trans à la billetterie sans que ça ne soit, sans que ça ne présente aucun caractère dérangeant ou de curiosité ?
pour faire plus amplement connaissance, on va parler de la pièce dans quelques instants, mais pour faire plus amplement connaissance, on vous a demandé des sons qui vous ont marqué. Double générique pour vous, Danny.
Le docteur David Banner, biophysicien, cherche le moyen de réveiller les forces latentes que chaque homme possède en lui. Mais une surdose accidentelle de radiation gamma bouleverse la composition chimique de son organisme. De ce jour, quand David Banner se met en colère, une étonnante métamorphose se produit.
Double générique, qu'est-ce qu'on entend, Danny ?
Là, c'est Kung Fu.
Ouais.
Et le premier, c'était l'incroyable Hulk.
Ouais.
Ouais.
Histoire de métamorphose pour Hulk.
Oui.
Ne me dites pas que ça vous parlait déjà quand vous étiez enfant.
Bah évidemment, puisque je vous dis. Mais ce qui me parlait plus que la métamorphose, c'est le côté agressif. C'est-à-dire quand on vous touche, quand quelque chose est injuste, vous réagissez. Et vous avez vraiment besoin d'exploser. C'était vraiment là où je me reconnaissais. Et le fait que ce soit une personne qui était toujours seule, qui ne pouvait jamais raconter sa vraie vie, et qui devait aller de ville en ville. Et ça me touchait énormément.
Et Kung Fu ?
Et Kung Fu, bah, c'est un peu pareil, dans le sens où c'est quand même un personnage qui a quand même une certaine solitude, mais il y a cette sagesse, il y a la rigueur, pas la discipline, parce que je suis vraiment... mais la rigueur et la patience. Et l'effort récompensé, et ce besoin de faire du bien autour de soi. Et encore une fois, un personnage qui est plutôt seul, qui est dans sa tête, dans sa bulle. Mais voilà. Donc je me sentais très très identifié avec tout ça.
Depuis, ça a changé, ce rapport à la solitude ?
Oui. J'aime bien la petite solitude, oui. Mais le contact des autres est très important.
Qu'est-ce que vous faites comme métier ?
Là, dans l'actualité, je suis conducteur de bus. Donc là, je prends ma claque.
On va vous retrouver tous les deux dans quelques instants pour parler de cette pièce trans. Tout de suite, je vous propose d'écouter Chris. Elle sera notre invitée dans le Énervé le 26 février prochain. The Queen of the Pop, Five Dolls.
$5 baby blues, $5 baby.
Chris sur France Inter en concert partout dans le monde avec le 1er juin le festival Wheel of Green à Vincennes.
Rendez-vous.
Et cette histoire de construction du féminin, déconstruire, construire du masculin, ne plus savoir où on en est, ne plus savoir à qui regarder, quoi faire, fais pas ci, fais pas ça. Tous les murs que je me suis levé.
Le nouveau rendez-vous.
Toutes les impositions, tous les carcans. Stop.
Laurent Goumard.
En fait, j'ai rien prouvé. J'ai juste à être cohérent avec moi-même. À tel point que finalement, pourquoi ne pas récupérer cette petite fille qui fait partie de moi, cette adolescente, la prendre par la main et lui dire c'est ok, tout va bien, on continue le chemin et on y va de l'avant. Et on en profite.
Sur France Inter.
Dany, c'est vous qu'on entend là au théâtre dans un extrait de Trans, votre pièce Didier Ruiz. Vous êtes face au public, hein, la parole est frontale. Qui était cette adolescente avec qui vous avez rompu dans votre vie pour devenir Dany? Comment vous la définiriez, puisque vous tentez aujourd'hui de la récupérer?
Bah, quelqu'un qui luttait contre la vie jour au jour, qui n'arrivait pas à être en place dans cette société, mais vraiment quelqu'un de antisocial, antiscolaire, mais qui devait faire avec.
Et la réintégrer aujourd'hui, ça veut dire quoi?
Bah, ça veut dire se pardonner, ça veut dire récupérer sa façon d'être. Je veux dire, c'est pas parce qu'on change de genre qu'on change de caractère, d'attitude, de pensée, de sentiment, de spiritualité, c'est la même personne. Mais il faut l'accepter. Parce que comme il y a une vraie cassure de dire « Ah non, comme c'était une fille, bah non, c'est pas du tout moi, mais si, c'est toi. » Et ça, ça met du temps, en tout cas pour moi, d'assumer ça et de l'accepter. Et
c'est là... Le passage sur le plateau, justement, sur scène, ça a modifié quelque chose dans votre rapport à vous-même?
Évidemment. Et d'ailleurs, c'était un peu le défi, parce que c'est la chose qui m'avait le plus impacté quand on a parlé avec Didier. Moi, je lui ai dit « Écoute, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à parler en public, enfin, c'est panique. » Et donc pour moi c'était vraiment très très important. Oui, d'accord. Et ça mettait tout en place. Puis le fait de se reposer des questions, de se revoir 20 ans après aussi, de dire comment j'ai évolué justement, vers où je vais, qu'est-ce que je peux apporter. Et c'est très important. C'est très important et très intéressant surtout de voir ce qu'on est capable de se regarder à soi-même en fait.
Juste une question, parce que vous-même vous avez été acteur, Didier Ruiz.
Bien sûr.
Quel type d'acteur étiez-vous? Vous vous sentiez à l'aise sur scène?
J'adorais ça, hein. J'étais très cabot, hein, bien sûr, j'aimais beaucoup ça, jusqu'au jour où je me suis posé la question de savoir quel sens avait le théâtre que je faisais. Et c'est à partir de là que j'ai tourné ma veste.
Quel type de théâtre? De répertoire, j'imagine?
Alors non, pas forcément.
Contemporain?
J'ai fait de répertoire contemporain. Oui, j'ai beaucoup joué d'auteurs contemporains. Formidable, c'était formidable. Avec Jean-Luc Lagarce, avec Mignana, Noël Renaud, c'était formidable, j'étais comblé.
Mais
je me disais en quoi je participe à une révolution. Et je pense que j'avais besoin du mouvement, de la révolution, dans le sens du mouvement. Et que du coup, je suis parti vers la mise en scène, donc j'ai changé de champ pour m'asseoir en face et imaginer un théâtre qui pouvait créer du mouvement. Alors ça peut paraître prétentieux.
Non, ça veut dire faire monter sur un plateau des gens qui n'avaient pas l'habitude de le faire.
Par exemple. Et puis essayer de voir quel rôle j'avais comme artiste militant engagé, comment mon théâtre pouvait être politique et participer à un changement sociétal avant que ça soit fichu.
Dany, vous êtes sur scène actuellement donc avec cette pièce qui circule plutôt pas mal depuis le Festival d'Avignon. Elle a été montrée et on sait avec quel succès. Ça vous donne envie de continuer sur scène?
Alors la vérité, c'est que je me suis posé la question, mais j'avoue que là, j'aurais pas vraiment la réponse, parce que ce serait dans une autre démarche. Donc,
oui, bien sûr. Ah oui, oui.
Mais quelque part, oui, je me suis surpris, même si j'ai le trac à mort à chaque fois, il y a des fois où je me suis vraiment senti hyper à l'aise. Mais vraiment. Alors c'est très contradictoire, comme d'habitude, mais bon, ça c'est moi, dans toute sa splendeur. Donc, mais oui, pourquoi pas.
Dany, vous n'êtes pas seul sur scène, hein, vous êtes sept, tous non professionnels. Un casting, il y a eu un casting auparavant. Parmi les sept qui sont restés sur scène avec vous, quel est celui ou celle dont l'histoire vous a le plus troublé?
C'est pas vraiment l'histoire en soi, sinon c'est des bribes d'histoire et par rapport à leur particularité. Moi, ce qui m'a énormément touché, c'est que ça faisait très longtemps que j'étais plus trop dans le bain, si on peut dire. Et se me retrouver parachuté, comme on s'est vu, à Château-Vallon, enfin en résidence, de me rendre compte à quel point on était tous différents et les particularités. Et j'ai été mais bouleversé, mais plein de fois, il y a des tas de choses. Enfin, je veux dire, Neus, sa façon d'être, Raoul, tout ce qui leur est arrivé, ces petits trucs. Et c'est pas qu'on se voit refléter, c'est justement de prendre vraiment la personne comme elle est, est-ce qu'elle a vécu. Et j'ai beaucoup d'empathie, en fait. Donc j'arrive vraiment à... Et la première semaine, on était tous ensemble. Mais c'était de... Enfin, moi j'étais déchiré en deux, quoi. C'était énorme.
C'était la première fois que vous renouiez avec... Le milieu de personnes
oui,
trans.
Mais, oui, dans aviez... ce, enfin, j'ai plein d'amis, bien sûr, ouais. Mais je veux dire que dans ce sens-là et dans ce contexte-là, ouais. Le fait de s'ouvrir, de raconter ce qu'on a vécu, ce qu'on est, ce qui nous touche, ce qui fait partie de nous, ce qu'on pourra jamais effacer, c'est très puissant. Très, très puissant.
Ils ont entre 20 ans, 22 ans et 60 ans, enfin, depuis quand même maintenant, j'imagine, voilà,
un peu bougé
depuis le temps que ça, depuis que ça tourne. Moi, ce qui m'avait marqué, je vous en avais posé la question au Festival d'Avignon, c'était le fait que toutes les personnes travaillent ou alors sont au chômage, mais en tout cas, aucun n'est lié au milieu de la nuit, ni de la prostitution, ce qui existe pourtant aussi dans le parcours de certaines personnes trans.
Bien sûr,
ça n'avait pas la place sur le plateau.
Non, ça faisait partie de mes conditions sine qua non pour les rencontres, dont il y avait cette disponibilité de 2 ans dont je parlais, et le fait que je ne voulais pas d'artistes et pas de gens liés au milieu de la nuit et au milieu des travailleurs du sexe. On m'a encore posé la question hier soir en me demandant pourquoi j'avais écarté. Je ne les ai pas écartés. J'ai fait au contraire la place à ceux dont on ne parle pas. Et ceux qui sont prostitués, bien sûr, il y en a, prostituées, toxicomanes, etc. etc. Mais on va forcément vers un bout du spectre qui est pas très intéressant. Sans le nier, moi je préfère parler de ceux qui ont des enfants, qui sont mariés, qui travaillent. Et d'un seul coup, on est dans un non-événement, dans une normalité absolue. Et peu importe que ce soit des gens qui ont changé de genre, c'est des gens qui sont dans la vie. Et moi, je me dis, si demain mon médecin est un médecin transgenre, ça m'est absolument égal à partir du moment où c'est un bon médecin.
Alors, dans la pièce, les acteurs parlent de tous les sujets. L'enfance difficile pour certains, mais pas pour tous d'ailleurs. Certains ont eu des parents qui les ont soutenus dans leur démarche. Ça a été votre cas, c'est ça, Dany? Vous disiez que votre mère vous avait soutenu à un moment donné
Attention. Ma mère a bien voulu me payer l'opération. Parce que c'était sa seule solution pour dire, mais sinon, elle m'a jamais, jamais, jamais soutenu. Je suis parti de chez moi. Donc, et c'est là où ma mère fait quelque chose d'exceptionnel et fait ce que seulement une mère peut faire, qui finalement, je ne comprends rien, je ne sais plus quoi faire avec toi, et je décide de te donner l'opportunité. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui sort du fond du cœur. Elle n'a jamais su si elle a bien fait ou mal fait. Elle a mis du mal à comprendre. Et puis finalement, elle s'est dit, génial, quoi, oui.
Elle vous a vu sur scène?
Non.
Elle ne le veut pas? Vous ne le voulez pas?
Moi, ça ne me dérangerait pas, mais elle est convaincue qu'elle a, il y a une espèce de, comment dire, de distance, et elle pense que c'est des choses très particulières que je vais raconter, et je pense qu'elle a peur de si je peux, de comment je peux parler d'elle, alors que finalement, non. Mais bon, ça, c'est.
Didier Ruiz, quelles sont les questions qui se posent après ce spectacle?
Quand j'ai vu le spectacle, directement dans le cœur, une phrase que j'ai entendue des millions de fois depuis qu'on travaille, qui est « Je suis né pour être réel et pas parfait », qui est une des phrases qui est dite à la fin par Leire, et elle le dit parce qu'elle l'a tatoué sur son bras. Et je me dis, finalement, c'est quand même pas si simple que ça d'être réel, d'être vraiment ce qu'on a envie d'être. Et qu'on est tellement soumis à un formatage, mais tous azimuts, dès qu'on ouvre l'œil, dès qu'on naît, on est formaté. Ah, un petit garçon, pif, bleu. Ah, la fille, rose. Ah, banana. Et hop, le ballon, la poupée, je sais pas quoi. Enfin, on est tout le temps formaté et on s'en rend pas compte parce que c'est la vie. Et quand on prend le temps d'y penser, on se dit waouh. Quand même, j'en ai eu des camisoles comme ça qui m'ont empêché de faire parfois ce que j'avais envie de faire. Donc, je pense que c'est une des choses qu'on se dit. Et hier, un spectateur me disait, en fait, ce spectacle ne parle que de la tolérance, il ne parle pas du tout des transgenres. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Et si aujourd'hui je devais renommer ce spectacle,
comment vous le nommeriez?
Je le nommerais à l'envers. Je l'appellerais Messenlia d'abord et entre parenthèses trans. Donc, au-delà d'abord et ensuite trans en sous-titre.
Vous comprenez ce changement, Dany?
Oui, parce qu'en fait, c'est pas le fait d'être, c'est ouvert à tout le monde. Je veux dire, il y a un moment donné où on devrait arrêter de se voiler la face, tous, autant qu'on est. Je veux dire, on va pas aller avec une étiquette constamment. Et en fait, on accepte cette étiquette. Pourquoi? Par rapport à qui? Est-ce qu'on n'a pas cette capacité de dire, non? Je ressens quelque chose qui n'est pas en adéquation avec ce que je suis censé être ou même penser. Donc je me permets le luxe de de me réaliser.
Est-ce qu'il y aurait des choses que vous auriez refusé de faire sur un plateau ?
Chanter ? Non, je plaisante. sûrement me déshabiller. Ça, c'est quelque chose que je suis pas sûr que j'aurais accepté.
Ça tombe bien, je te l'ai pas demandé.
C'est parfait. Trans, Mens Elia, c'est au Théâtre de la Bastille à Paris jusqu'au 10 février, puis le 12 à Chevilly-Larue, le 14 à Fontenay-sous-Bois, du 6 au 10 mars à Barcelone. Retour, bien sûr, sur les lieux du crime. Puis à Choisy-le-Roi et enfin mai, Mulhouse et Évry-Essonne.
Et vous citez pas Berlin?
Ah, Berlin, allez-y, c'est quand?
On est très fiers d'aller à Berlin. J'ai pas les dates.
Avril.
7, 8 avril.
On va le vérifier. Vous êtes content d'aller à Berlin?
On joue à la Chaubune.
Oui, c'est énorme.
C'est énorme! Énorme! On est très fiers. Enfin, moi, en tout cas, je suis très fier de ça.
Il y a des pays qui ne sont pas prêts à accepter ce genre de spectacle?
Je suis pas sûr qu'on puisse aller en Corée du Nord. J'en mourrais d'envie, mais c'est pas d'actualité. Par contre, il est question qu'on aille à Cuba, étrangement, ou pas. Ça dépend de quel côté on regarde ce pays tellement plein de contradictions.
On suivra cette aventure. Merci à vous deux. Vous restez avec nous, Dany et Didier Ruiz. Tout de suite, on part du côté de Soro Solo pour sa chronique, l'Afrique en solo.
Vous pourriez mettre un disque?
Oui.
Rendez-vous?
Qu'est-ce que vous voulez?
Je vais m'en dire des nouvelles de celui-là.
Aujourd'hui, Soro Solo, direction les îles du Cap-Vert pour fêter un anniversaire, mais un anniversaire musical. Quel anniversaire?
C'est les 30 ans de Luz Africa et c'est ce label de disques qui a fait découvrir Cesarea Evora au monde et le succès de Cesarea a permis de découvrir le Cap-Vert.
Qui est celui qui a pu créer ce label Luz Africa?
C'est José da Silva. Mais à la base, José da Silva n'est pas producteur. Il était aiguilleur à la SNCF.
Ouais.
Et il organisait en Île-de-France, comme toute la diaspora, des soirées récréatives pour la communauté capverdienne. Et puis un jour, par hasard, il va en vacances à Lisbonne et dans un restaurant, il voit une dame un peu alcoolique, mais avec une voix extraordinaire. Elle chante et c'était magnifique. Il est subjugué. Il s'est dit... Oh, faut l'inviter un jour dans une de nos soirées de la communauté capverdienne en Île-de-France. Et c'est ainsi qu'il l'invite à Paris et c'est le succès total.
Avec ce tube, Sodade sur l'album Miss Performando qui va faire exploser Cesarea Evora en France et dans le monde entier à partir de 1992.
Passando-me saudade, 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 diz-me a terra sem inclão, saudade, 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 diz-me a terra sem inclão.
Gros succès pour cet album de Cesarea Evora. Combien d'exemplaires?
800 000 exemplaires vendus à travers le monde.
Et pour ce label qui était particulièrement inconnu encore à l'époque. Mais pourtant, José, je crois, se ruine à l'époque, c'est-à-dire pour le premier disque de Cesarea Evora.
Tout à fait. Le premier disque, Amar Assoul, La Mer Bleue, ouais. Il s'est ruiné. Même son banquier l'a viré. Il s'est ruiné, il a cassé sa tirelire et il a produit cet album. Et c'est au deuxième album que le succès est devenu phénoménal.
Là, nasceu foi um estrela. Que cata brilhar, linda mar, boeu areia, que cata moia, espalhou desse mundo fora, só vai terra, pó, cheio de amor, temor na tem coladeira, terra, sal, cheio de amor, tem batu, tem funaná.
Bon, ça, c'est son plus gros succès.
Ah oui, Petit Pays, c'est vraiment Petit Pays. C'est vraiment l'un des plus gros succès de Cesária Évora.
Alors, ce label n'a pas produit que Cesária Évora, j'imagine.
Non, bien entendu, de l'Afrique centrale de Pierre Akadengue, au Mali de Aboubacar Traoré, en passant, bien entendu, par une multitude de Capverdiens, Luz Africa a produit des dizaines et des dizaines d'artistes à travers toute l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne et bien entendu au Cap-Vert. Et c'est en 2017, José da Silva, le fondateur de Luz Africa, décide de donner la barre à sa fille Elodie da Silva. Et c'est elle qui va décider de marquer le label en ouvrant ce label sur les musiques urbaines et va découvrir un certain Blinky Bill.
Et j'ai tenu à créer ma propre branche du label qui s'appelle The Garden, le jardin, mon petit jardin, pour mettre un petit peu plus en avant les musiques urbaines plus actuelles et avec notre première signature Blinky Bill qui est un artiste kényan.
Everybody groove to the side. You got the sauce and you got the vibe. Make it clap, clap, motto, badai. Let me see you bump, I see no lie. Chica, 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 chica. Benda, benda, bum, bum, eh, hey, madame. You want a proper fix? Call me. Not a by the way, call me. Heed you a joke, Nikani. Bring it back to Fadani.
Attention, ça c'est donc Blinky Bill et à Nairobi au Kenya, Blinky Bill fait partie des grandes figures du nouveau son afro-futuriste de toute l'Afrique de l'Est. Et son entrée à Luz Africa inaugure une nouvelle direction, celle des musiques actuelles.
Merci Soro Solo, on se retrouvera lundi prochain. Merci Didier Ruiz et Dany. Je rappelle que Trans, ça commence aujourd'hui au Théâtre de la Bastille à Paris jusqu'au 10 février avant de reprendre la tournée. Et puis j'ajoute aussi que vous allez encore donner la parole à des non-comédiens dans le Grand Bazar des Savoirs les 13 et 14 avril au Théâtre Firmin Gémier et la Piscine à Châtenay-Malabry qui fête ses 10 ans. Alors tout de suite, on se quitte pour cette première partie du Énervé avec Chelou sur France Inter. Out of sight, I'll be forgiven. In the forefront, I'm forced to break away. I'm trying to be someone, but I don't even know what that means. I'm trying to do something, but I don't even know what that is. How cold must you be to do the things you do? Out of sight. Run away. Can't catch me, run. Le son louche de Chelou, bien évidemment, dans le NRV. Le NRV, première partie, c'est fini. On se retrouve dans 15 minutes après le journal avec ça.
Victoire de l'équipe de France, 52 à 3.
Quelle entrée dans le tournoi pour les Françaises, quelle entrée!
Elles ont tout gagné, rugby féminin, tournoi destination, les femmes s'en mêlent, c'est tout de suite. Le rendez-vous est pris, alors là, tout de suite, après le journal.